Chapitre 2. La petite chambre était maintenant plongée dans la pénombre. Seules brûlaient deux chandelles, l'une sur la table de nuit, l'autre sous le tableau des rois mages. 10 fois déjà, le vieil homme s'était levé, avec l'impression qu'il serait mieux s'il ouvrait la fenêtre, et il avait essayé de prendre le vent frais de la nuit en longues inspirations régulières. Mais 10 fois, il s'était recouché, sentant l'essoufflement le gagner, espérant alors que son corps au repos exigerait moins de cet air précieux qu'il n'arrivait pas à saisir. Cet étouffement, il le connaissait depuis toujours, ou presque, c'était son plus vieux compagnon. Il en savait tous les symptômes et en sentait les signes avant-coureurs les plus infimes, comme cette curieuse impression d'avaler de travers ou ces légers picotements au bout des doigts. Quand la crise venait, il s'appliquait à la traverser avec sang-froid, à économiser son peu de souffle jusqu'à ce qu'il lui revienne enfin, comme l'équilibriste marche prudemment sur le fil pour arriver à la terre ferme. Il savait bien qu'un jour ce fil ne finirait pas, ou qu'il en tomberait avant d'arriver au but. Il savait aussi que ce jour approchait, car il avait toujours plus de mal à franchir cette corde qui s'allongeait chaque semaine et parfois balançait au vent. Le plus terrible, c'était quand la toux le prenait. Une fois ou l'autre, ces derniers temps, la quinte l'avait saisie, malgré tous les efforts qu'il avait faits pour l'étouffer. Plus question alors de prendre sagement son mal en patience. Celui-ci prenait le dessus, secouant le corps de spasmes désespérés, laissant au cœur des élans de panique. Chaque fois, heureusement, le souffle lui était revenu à temps. Les gens qui peuvent tousser tous leurs sous ne connaissent pas leur bonheur. Il entendit des pas furtifs sur le plancher hors de la chambre, et la porte s'ouvrit après 2 coups rapides, presque des frôlements. C'était sa sœur Antoinette en robe de nuit, projetant sur les murs avec sa chandelle l'image vacillante d'un fantôme bienveillant. « Jeannot, ça ne va pas, il fallait m'appeler !» Jeannot. À cet âge, elle l'appelait encore du petit nom de son enfance. Ses confrères chanoines auraient bien ri de l'entendre nommer ainsi, lui qui avait naguère été l'intime de leur majesté catholique. Il est vrai que ses confrères chanoines ne se seraient pas non plus levés en pleine nuit pour lui préparer une décoction d'herbe. « Mais non, ma bonne Antoinette, ne t'inquiète pas, cela va déjà mieux. Ne m'en compte pas, je ne dors pas et cela fait 2 heures que je t'entends aller venir. Je vais te faire une tisane, couche-toi, tu vas prendre froid. » Il n'en fit rien et resta à contempler le grand tableau pendu au mur. Les 3 rois n'avaient pourtant pas l'allure de grands de ce monde. On eût dit plutôt 3 traits de misère ramassés au marché et vêtus à la hâte de pourpre et d'hermine. Les peintres assurément n'étaient ni le Caravage ni le Gréco. 2 des mages étaient agenouillés. L'un, vieillard chenu aux yeux rougis, portait la main à sa bouche comme pour adresser un baiser au bambin. Son cou décharné émergeait d'un col de fourrure et lui donnait des allures de héron. L'artiste anonyme avait été bien inspiré de ne pas étendre son œuvre à la Sainte Famille. Nul doute que le petit Jésus ne se soit effrayé d'une telle apparition. Ce Melchior peu engageant était flanqué d'un confrère franchement patibulaire. Le profil gauche de Gaspard avait pourtant pu dégager certaines façons de rude noblesse, sans ce regard ahuri fixant simultanément les 2 coins opposés de l'étable, sans cette barbiche hirsute, sans ces cheveux huileux séparés en 2 longues mèches par une immense oreille. Cet inquiétant personnage paraissait pourtant animé de bonnes intentions, brandissant cette immense calice d'argent que tout bon chrétien s'est rempli de myrrhe ou d'encens. Quant à Balthazar, le rapin l'avait fait plus noir que nature, si noir qu'il était vain de chercher à en deviner les traits dans la pénombre, malgré la lampe qu'il portait devant lui. On voyait derrière eux un vague paysage fait de cyprès, de vertes collines et de lointains châteaux, d'où émergeait un cheval bec que la main malhabile de l'artiste avait fait si cagneux que seul un naïf pouvait imaginer qu'il avait pu sans périr faire le voyage d'Orient à Bethléem de Judée. « Tiens, bois ça, tu te sentiras mieux !» Antoinette était revenue avec une tasse fumante dégageant de subtils arômes de belladone et de camomille. Elle se flattait d'herboristerie, avec prudence toutefois, en un pays où on aime assez brûler les sorcières. La crise passait. Il était heureux que la rémission lui vînt en même temps que la tisane. Sa bonne sœur aurait au moins le sentiment de ne pas s'être agitée en vain. Apaisé, il se recoucha, ne laissant allumer que la bougie posée au devant du tableau. Je m'étais fait très vite à ma nouvelle vie, qui n'avait pourtant rien d'une sinécure. levée avec le soleil en été, bien avant même en hiver, et ce, tous les jours que Dieu fait, y compris le dimanche, notre existence était rythmée par la cloche de la collégiale et ses offices. Nous avions toutes les charges qu'ont les gens attachés au chapitre, nous y ajoutions les longues heures passées sur les bancs à apprendre à écrire et à chanter. La discipline était rude et les écarts sévèrement réprimés. La baguette attendait ceux qui se tenaient mal aux offices ou paraissaient en classe. Fonascu était brave et se fâchait rarement, mais l'écolâtre était d'une autre espèce, celle du censeur juste et impitoyable. Je t'apprendrai la piété et la modestie, mon petit ami, annonçait-il froidement au fautif avant de lui laisser au postérieur le brûlant souvenir de ses principes inflexibles. Il était de noble famille, apparenté, disait-on, à l'épouse du gouverneur et avait la haute main sur l'école. Il visitait souvent les classes sans jamais prévenir et rien ne lui échappait. On le voyait aussi aux offices matinaux, ombre silencieuse glissant derrière les colonnes. Je n'étais pas plus sage qu'un autre, mais j'étais discret dans mes écarts, d'apparence modeste et réservée, tant et si bien que j'échappais généralement à ces désagréments bénins mais douloureux. Les messes du petit matin, auxquelles généralement n'assistait pas un chat, avaient un charme singulier, spécialement l'hiver à la faible lueur des chandelles. J'avais un peu l'impression d'être l'officiant d'un culte éternel. Frissonnant sous mon aube, je veillais sur la ville encore endormie et j'en assurais la protection par ma prière. J'exagère en disant que ces offices étaient déserts. Au premier temps de ma carrière de chanteur, il trouvait une paroissienne assidue en la personne de Marguerite de Parme, qui résida quelques années à Namur, en la demeure de notre gouverneur, avant de repartir pour l'Italie. Elle tenait une cour discrète. J'ignorais alors que cette vieille dame au doux sourire était née des amours de l'empereur Charles Quint avec une belle Flamande du nom de Jeanne Vandenhinst et qu'elle était pour l'heure gouvernante en titre des Pays-Bas. Son fils Alexandre en dirigeait les armées et séjournait à Mons quand il ne courait pas le pays à la tête de ses troupes. Fort du succès de ses armes, il piaffait déjà d'impatience. Comment, à 36 ans, devoir s'en remettre encore à l'autorité maternelle? Une scène terrible les avait opposés à Namur, la mère et le fils, mais le scandale n'avait servi à rien. Les ordres du roi ne se discutaient pas et la vieille dame avait eu le dernier mot. À la veille de descendre au tombeau, les bons chrétiens ont à cœur d'assurer le repos de leur âme en payant d'avance quelques messes à cette intention. Les agonisants les mieux pourvus de deniers ont souvent pour opinion qu'une messe en musique sera plus agréable encore aux oreilles divines qu'une liturgie ordinaire. Je ne sais s'ils ont raison. Les péchés d'orgueil ou de luxure s'effaceront-ils plus efficacement à l'heure dernière dans l'harmonie des psaumes et des cantiques? Toujours est-il que c'est l'usage. Que l'on fasse chanter 10 messes passe encore, qu'on en commande 50, voilà qui devient plus embarrassant, mais qu'on établisse à cet effet une rente perpétuelle, c'est là, à mon sens, nouveau péché de vanité et manque de charité. Songez qu'à ce train, avec l'écoulement des siècles, les maîtrises n'auront bientôt plus assez de leur journée pour satisfaire aux commandes. Du moins, ces revenus permettaient-ils au chapitre de nous chauffer l'hiver et de nous nourrir convenablement? 3 saisons de suite, de 1583 à 1585, les récoltes furent catastrophiques, noyées par les pluies au printemps, puis brûlées par des étés trop chauds. On souffrit grandement de la faim dans le pays, et beaucoup mouraient pour un rien, trop affaiblis qu'ils étaient. Je perdis même, en ces temps difficiles, un dernier petit frère que j'avais à peine connu. Au moins, n'eûmes-nous jamais faim. Si même nous devions chanter pour l'éternel repos de Gilles Bouisard, d'Antoine de Guélin et d'une armée de leurs contemporains dont nous n'avions que faire. C'est à ces messes en musique pour l'anniversaire des trépassés que je fis mes premières armes de choriste. Je chantais déjà la première peu de temps après mon arrivée en la chapelle Saint-Laurent à la mémoire d'un certain Martin Blanquedame. Nous étions peu nombreux à ces occasions tant elles se multipliaient. Mes 5 ou 6 compagnons connaissaient les hymnes par cœur. J'avais, quant à moi, à les deviner sur un papier à musique, rendu doublement obscur par la pénombre et par l'ignorance où j'étais encore de ces signes musicaux semés comme crottes de mouches sur le parchemin. Ne voulant pas léser de mon impéritie l'âme de feu Blanquedame, j'avais résolu de chanter de tout mon cœur au risque d'accommoder la musique à mon goût. Quelques violents coups de coude dans l'estomac eurent tôt fait de réfréner mes velléités, de me convaincre que l'harmonie n'était pas une science aléatoire et que chanter en chœur n'était donc pas aussi facile qu'il y paraissait. Nous formions une belle bande de lurons. Certes, j'avais un peu la nostalgie de ma douce vie dans le quartier de Notre-Dame, mais c'était ici tout autre chose. Nous étions à peu près du même âge, souvent issus des mêmes familles modestes. Seul le grand Dessarteau pouvait se flatter d'une origine plus distinguée. Il appartenait à une famille de petite noblesse, dont les membres s'étaient illustrés à Saint-Aubin, chanteurs, musiciens et chanoines depuis des générations. Il n'en tirait aucune vanité et passait à la fois pour un musicien doué et un joyeux fantaisiste. Il était parmi les aînés et ne devait plus rester longtemps parmi nous. Comme je le raconterai, un gros rhume lui laissa un jour la voix éraillée. C'était la mue, le terme de sa carrière à la maîtrise. L'âge de 14 ans paraît canonique à ceux qui en ont 9. La clepsydre ne se vide pas dans l'enfance aussi vite qu'à l'âge adulte, et notre temps de petit chanteur nous semblait une immense saison. Dans toutes les chapelles, le maître de chant est en fait une sorte de Sisyphe, et je ne sais ce qui lui a valu ce supplice. Il perd ses élèves, et ceux-ci leur voient, le jour précis où il en a la meilleure satisfaction, et il est condamné à toujours recommencer à former de petits chanteurs qui le quitteront bientôt. Quelque chose de fort nous unissait, que ne pouvaient connaître les autres gamins de notre âge, et ce malgré la dure vie que nous menions, grâce à elle peut-être. C'était sans doute le sentiment d'appartenir à une grande famille. Ces bancs, nos prédécesseurs les avaient usés bien avant nous. Ces harmonies que nous faisions résonner dans le cœur, d'autres les avaient chantées des années, des siècles plus tôt. Les autres garçons des bords de Meuse, qui se levaient aussi dans l'aube glacée, qui était mort obscure depuis longtemps, ou que parfois la chance ou le talent avait mené au sommet de l'art musical aux extrémités de l'Europe. Nous moquions Fonascu et son éternel rebâchage sur le génie de nos ancêtres, mais en même temps nous vivions leur œuvre de l'intérieur et en devinions le prix. Nous sentions aussi que nous touchions par la musique à quelque chose de magique, de proche de ce divin où la liturgie nous plongeait d'ailleurs sans cesse. Nous participions à quelque chose d'éphémère pour nous, mais d'éternel pour les hommes. Nous restions cependant gais, l'en dit-on peut-être davantage, et mes plus beaux rires d'enfant datent de ces 3 ou 4 années que je passais à Saint-Aubin. Nicolas Dupont et moi étions devenus inséparables. Il était originaire d'Andenne, à quelques lieues, en aval sur le cours de la Meuse. Nous nous racontions tout, joie et soucis, et au besoin, nous inventions, imaginant des histoires abracadabrantes qui ne faisaient rire que nous. Il ne me parlait pourtant jamais de sa famille. J'avais vite compris qu'il préférait éviter ce sujet et je n'insistais pas. Il m'arrivait le dimanche de rentrer à la maison après la messe et d'y passer l'après-midi, mais c'était l'exception. L'écolâtre n'était guère favorable à ses privilèges et je dois reconnaître que la maîtrise devenait vite pour nous une famille plus vraie que nature. J'aimais les miens, mais ils étaient devenus étrangers à tout ce qui était désormais ma vie. J'obtins quelquefois l'autorisation que Nicolas m'y accompagna. Invariablement, on nous demandait de chanter, et le voisinage venait nous voir comme deux bêtes curieuses. Cela ne nous réjouissait guère. Si nous échappions à la chapelle pour quelques heures, ce n'était pas pour nous remettre à chanter. Au moins, si nous étions restés avec les autres, ces concerts obligés auraient fait place à la promenade, et qui sait, à une belle bataille sur les remparts, sous l'œil complaisant de l'un ou l'autre vicaire qui aurait peut-être même joué avec nous. « Regardez-le, mon petit curé, » disait ma mère attendrie à ses voisines, « il chante comme un évêque. » On voit que tu n'as jamais entendu l'évêque, il chante comme une vieille porte. Je n'inventais rien, mais Sire de Chapelle avait la spécialité d'assurer les réponses dans les tonalités les plus imprévisibles. Le cœur devait se boucher les oreilles et s'accrocher ferme pour arriver à bon port. « Jeannot, fais-nous un petit quelque chose pour Madame Berthe. » Madame Berthe, Françoise ou Perrette, le voisinage semblait s'être soublin peuplé de mélomanes, et nous n'y échappions pas. Nicolas prenait la voix aiguë, moi la grave, et nous entonnions quelques strophes dont nous avions évidemment revu les pieuses paroles. Nous ne comprenions guère le latin, mais nous nous y entendions à forger un charabia en ous et en oum pour donner aux pires bêtises une componction du meilleur aloi. Sur les harmonies des cantiques sacrés, nous chantions un sabir où il était question de la chaise percée de l'écolâtre ou des longs pieds de notre Phonascus. Il parle le latin comme un vrai clerc, Madame Marguerite, s'extasiait les voisines. Vous en ferez un chanoine, c'est sûr. Eh, dame, pourquoi pas? Il est de pires états que celui-là. J'échangeais avec Nicolas un regard à la fois excédé, complice et faussement angélique. « N'empêche, me dit-il après un long silence, un soir que nous rentrions à Saint-Aubin en flânant le long du rempart de Sambre. Tu as de la chance d'avoir une famille comme ça. » Je ne posais pas de questions, laissant la confidence venir d'elle-même. Moi, ma mère, on l'a brûlée comme sorcière. Il n'y avait rien à dire à cela. Je me contentais de lui poser fraternellement la main sur l'épaule. En 1573, un an avant ma naissance, un vieux chanoine au nom très compliqué nous avait légué sa maison et une forte somme. Quand je dis nous, je ne parle pas de Saint-Aubin ou de son chapitre, mais bien des petits chanteurs, des duodénies, comme on nous appelle en langage savant. Nous étions souvent dans cette maison, proche de la collégiale, mais seuls les vicariaux y restaient à demeure. Ce terme gentiment moqueur de vicario désigne les anciens qui restent attachés à la chapelle quand la voix s'en va et le poêle s'en vient. Ils chantent les voix d'hommes aux grandes occasions, si la polyphonie l'exige. Ils apprennent tous à jouer d'un instrument, mais comme cornet et hautbois ne nourrissent guère leur homme, ils ont surtout bonne graine de vicaire, que l'on arrose d'écriture sainte jusqu'à l'ordre et la tonsure. Cette maison de grand trafic était ouverte aux quatre vents, et entre clercs, doyens et autres animaux, on y voyait courir force souris. Malgré notre jeune âge et nos airs innocents, nous étions, Nicolas et moi, passablement espiègles, et ces bestioles nous donnèrent l'idée d'un tour pendable dont elles allaient être les complices involontaires et que je vais vous narrer. La chapelle comptait alors depuis peu deux bassons. Cet instrument, neuf et curieux, nous intriguait, et le grand maître de la chapelle en personne était un jour venu nous en montrer l'appareil. « On ne joue plus guère de la harpe, avait-il expliqué, et nous n'avons pas remplacé le vieux Jérôme. D'ailleurs, cet instrument s'accommode mal de la musique aujourd'hui, à qui il faut ferme soutien plutôt qu'ornement mélodique. » Le dernier harpin était mort en effet depuis peu d'années. Il n'était pas vraiment de la maison, puisqu'il n'avait rejoint Saint-Aubin qu'à la suppression de la chapelle de Saint-Pierre au château, dont la harpe était d'ailleurs, depuis des temps immémoriaux, la force et la fierté. Notre maître avait fait démonter le basson devant nous. Cet instrument est plus connu de nos jours, mais il était alors nouveau. C'est en fait l'assemblage de deux grandes bombardes réunies dans un bloc de bois et surmontées d'une sorte de pirouette, comme en ont ces doucennes qu'on voit à la danse. On dirait quelques fagots de bois, et son possesseur en semble bien embarrassé qu'ils doivent le transporter ou même seulement en jouer, ce qu'il ne peut faire sans être aussitôt rouge comme une écrevisse. Au nombre des fêtes célébrées avec grande musique, celle de Sainte-Barbe n'est pas la moindre. Le souvenir de la Vierge et martyre y est pour peu de choses. De ce temps comme aujourd'hui, chacun sait que l'on installe ce jour-là par toute la ville les maîtres des hôpitaux choisis pour l'année à venir. C'est l'occasion d'une procession avec grand défilé d'échevins et de magistrats, et l'on chante dans les principales maisons de santé. La veille de la cérémonie, nous avions capturé deux souris, sans autre peine que le sacrifice d'un morceau de fromage détourné de notre ordinaire. Nous avions profité d'une récréation pour nous introduire avec nos proies dans la réserve des instruments. Les bassons étaient là, soigneusement rangés en pièces dans leur sac de cuir. Nous nous apprêtions à commettre l'irréparable. « On y va ?» m'encouragea Nicolas. « On y va !» répondis-je avec une virile résolution. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous sortîmes les souris de notre poche et les enfournâmes dans le corps de l'instrument. Elles s'y enfoncèrent bien vite, pensant trouver à l'extrémité trop étroite la lumière de la liberté. Un petit bout de bois suffit à les y coincer. Le lendemain, nous trépignons d'impatience, échangeant des potrominés, des clins d'œil complices. La procession, en l'honneur de Sainte-Barbe, s'arrêtait d'abord à l'hôpital Saint-Gilles, à deux pas d'ailleurs de la maison paternelle, dont tous les occupants étaient là pour nous entendre. Les bassonistes avaient donc monté leur instrument, se rengorgeant un peu sous l'œil de la foule que cette mécanique neuve intriguait. Quand le primicier donna la mesure du premier cantique, levant son beau bâton de cérémonie garni d'argent, ils prirent l'anche en bouche et y soufflèrent comme un seul homme. Là, s'ils avaient beau pousser de toutes leurs forces et passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, on n'entendait aucune musique, sinon de curieux couinements d'origine incertaine, mais à coup sûr indignes de la majesté de tels engins. Les fidèles se regardèrent et l'on vit les premiers sourires. Sous l'œil irrité du primicier, les musiciens démontaient leurs instruments et en inspectèrent les différentes parts. Ils eurent au fait de repérer l'obstruction et, sans en suspecter la nature, se mirent en devoir d'y remédier d'un bon coup d'écouvillon. Les souris sortirent des bassons comme des boulets de canon et se sauvèrent affolés dans l'assemblée. Des femmes hurlèrent, du moins parmi les belles dames du premier rang qui n'avaient pas chez elles ces bestioles. L'archiprêtre lança une salve de bénédictions, comme si le démon en personne était apparu devant lui dans ses flammes, tandis que la foule y allait d'un énorme éclat de rire. Le primicier lança à ses choristes un regard soupçonneux, car l'ahurissement des artilleurs, malgré eux, les disculpait à coup sûr. À défaut de coupables, l'affaire n'eut heureusement pas de suite. On préféra mettre l'incident sous le compte d'un intérêt subit et général de la gent rongeuse pour la musique nouvelle, plutôt que de se lancer dans une enquête qui pouvait être difficile. Cet épisode, dont nous n'avouâmes la paternité que des mois plus tard, me valut au sein des petits chanteurs une honorable réputation. Mais pourquoi ont-ils changé la forme des notes? Elles étaient carrées, voici qu'elles sont rondes. De qui se moquait-on? J'avais appris péniblement à reconnaître la maxime de la minime, je ne les chantais pas trop mal maintenant, et voilà qu'on me les changeait. On, c'était les imprimeurs, dont les partitions commençaient à envahir l'Europe entière. On ne trouve plus guère de nos jours de partitions manuscrites, et on imagine mal qu'il y a 50 ans à peine, à l'époque dont je parle, l'imprimé était l'exception. Des musiques qu'on reproduit aujourd'hui en nombre infini pour quelques sous, les clercs les copiaient alors à longueur de journée. « Prenez votre plume et écrivez-moi l'arpège de Do en semi-fuse, » me dit le maître de chant pour toute réponse. « En otronte ou en carré ?»« En ronde, vivons avec notre temps. » Je trempai la plume d'oie dans l'encrier et tâchai de tracer les trois notes. Je voulais en faire de petits ronds bien réguliers, pareils à ceux de la grande feuille que j'avais sous les yeux, marqués du nom mystérieux de Simone Verrovio Roma. Peine perdue, la tranche de la plume était coupée bien nette et ne pouvait que tracer droit. À vouloir arrondir les bords de mon dos, je n'ai réussi qu'à en faire un gros pâté qu'on aurait pu sans déchoir chanter si ou ré. Voyez-vous, monsieur Dufon, une plume d'oie restera toujours une plume d'oie, et on ne peut écrire des cercles avec des carrés. Pourtant, convenez que cette page, reproduite 1000 fois peut-être, est plus nette et bien mieux remplie que les parchemins de nos copistes. Je fus à l'instant persuadé de la justesse d'un argument aussi puissant et convainc de tout ce qu'on voulait. C'est là un grand progrès pour la musique. Comme le basson, osai-je demander, dans un éclat de rire général. Comme le basson, oui, sans doute, mais méfiez-vous, les souris sont plus friandes encore de papier que de basson. Je progressais rapidement. En écoutant le primicier et le phonascus, j'avais davantage l'impression de réveiller en moi de vieux souvenirs que d'apprendre des choses nouvelles. La musique existe sans doute en dehors de nous. Elle n'est pas une invention de l'homme, mais un don de Dieu, et j'ai eu ce don en moi. Il était arrivé à l'église Saint-Jean, le baptiste et non l'évangéliste, un jeune curé nommé Renson, fort féru de musique, qui demandait parfois le renfort de la maîtrise de Saint-Aubin pour ses grands offices. Il avait les grâces des chanoines, qu'il payait bien pour ce service, mais il avait aussi les nôtres. Le curé Renson nous prenait au sérieux. Il nous traitait comme des musiciens et non comme des instruments. Il avait un goût très sûr et achetait des musiques ignorées du coustre bibliothécaire de la cathédrale lui-même. C'est lui qui me fit découvrir les plus belles œuvres composées ces années-là au coin de l'Europe, les hymnes pour toute l'année de Victoria, les petites chansons de Monteverdi, les psaumes de l'Estocar. C'est de ce temps que naquit ma prédilection pour la musique espagnole. Elle n'use pas d'artifice, mais porte dans sa simplicité un charme irrésistible, mystérieux, qui pénètre au plus profond de l'âme. Dans des motets comme ceux de Zorita, il y a plus que de la ferveur. Il s'y joue un drame véritable qui remue l'âme et l'attendrit comme le fait une belle peinture. Seuls les Espagnols maîtrisent vraiment toute la magie de cet art, et je ne pensais pas devoir sous peu m'en rendre compte, bien mieux encore qu'aux musiques du curé Renson. J'avais un peu moins de 11 ans, et j'étais donc à la chapelle depuis 3 ans quand le bruit courut. Ils allaient revenir. On ne nous avait rien dit. On ne disait d'ailleurs rien, et les nouvelles, petites ou grandes, ne se répandaient jamais que par le bouche-oreille, gonflé et déformé, de chanoine en vicaire et de chantre à vicario. En l'occurrence, la nouvelle était plutôt d'importance. Ils, c'étaient les recruteurs de Sa Majesté le Roi d'Espagne, Pierre du Haut et Michel de Bock, le juriste et le musicien. Périodiquement, ils visitaient les maîtrises des Pays-Bas et repéraient les meilleurs chanteurs pour les emmener à la chapelle du roi Philippe II. Ce n'était pas neuf, car ce recrutement se pratiquait déjà avant ma naissance. Ces gens étaient même passés à Namur au début de l'année précédente, mais l'affaire n'avait guère fait de bruit, car ils n'avaient trouvé personne qui leur convainc. Certes, nul n'était obligé de les suivre, mais ils s'entendaient à user de la carotte et du bâton auprès des parents. La carotte, c'était une bourse bien garnie, qui souvent suffisait à convaincre les pauvres gens étonnés qu'on leur donne de leur enfant le prix d'un cheval. Et si l'un ou l'autre refusait de laisser partir son fils, la menace à peine voilée pouvait suivre. La guerre était dans toutes les mémoires, et on avait vu ce qu'il pouvait en coûter de s'opposer aux volontés de sa majesté catholique en un pays toujours suspect de l'être peu. Les évêques avaient protesté, gênés peut-être du procédé, malheureux sans doute de voir leur chapelle privée de ses meilleurs éléments. La rumeur devait venir de quelque autre diocèse, et elle n'était pas sans fondement. Il revint effectivement, mais si c'était chose attendue, la façon fut jugée sournoise. Les envoyés du roi remplirent leur office de la plus habile façon qui soit. Ils arrivèrent sans crier gare et se glissèrent aux offices parmi les fidèles, sans même se faire connaître. Dieu sait pourquoi, ils avaient dans leur longue expérience remarqué que les chœurs qu'ils auditionnaient plus officiellement perdaient soudain en qualité. Les meilleurs musiciens devenaient des tâcherons besogneux, la claire harmonie se changeait en pâte informe, et on ne distinguait plus dans ce salmigondi les belles voix qui faisaient d'ordinaire la fierté de la chapelle. Les prélats et jusqu'à l'évêque prenaient alors pourtant des airs angéliques de mélomanes comblés, eux qui d'habitude sursautaient à la moindre fausse note. Point de subterfuge cette fois, de l'aude en messe chantée, de kyrie en gloria, ils avaient écouté ce qu'ils voulaient entendre, et quand ils se firent connaître aux primiciers, ils avaient déjà une idée bien précise. Notre chanoine grand chantre en était tout marré. « Mes enfants, annonça-t-il plus doucement qu'à son habitude, ces gentilshommes nous font l'honneur de s'intéresser à vous. » Un silence inhabituel régnait parmi nous. « Sa Majesté recherche pour sa chapelle de bons chanteurs, petits et grands. Monsieur Duhaut vous félicite pour vos qualités et son jugement doit faire l'honneur de notre maison. » Le nommé Duhaut approuvait de la tête, souriant d'un air engageant, mais rarement un compliment nous avait fait si peu d'effet. Il prit alors lui-même la parole et se voulut convaincant. « Les plus doués d'entre vous auront la chance de vivre à la cour du plus grand prince de la terre, d'en côtoyer les meilleurs musiciens. Tenez, avez-vous entendu parler de Philippe Rogier ? Non, mais c'était un des vôtres, un amourois. Il est parti en Espagne voici 10 ou 15 ans. Malgré son jeune âge, c'est maintenant l'un des meilleurs musiciens de la cour, et c'est lui qui aurait dû venir vous entendre. Mais tenez, sa majesté n'a pu s'en séparer, et l'a pris avec lui pour le mariage de sa fille, l'infante Donna Catalina, avec le duc de Savoie. L'Espagne, la Savoie, s'il avait parlé des Indes ou de la Chine, c'eût été la même chose pour nous, dont l'univers géographique se bornait au nord à la colline d'Astedon et au sud à la montagne Sainte-Barbe. « Si vous permettez, nous avons eu aussi la même année Jean le Roi, » intervint timidement le Phonascus. « Le Roi, » réfléchit-il, « le Roi. » »« Oui, sans doute, mais l'exemple est moins bien choisi. Il est mort, voici 2 ou 3 ans, je crois. »« Mais il est mort aux Pays-Bas, pas en Espagne, » ajouta-t-il de suite en voyant nos mines horrifiées. Voilà qui était rassurant. « Nous voudrions entendre quelques-uns d'entre vous en particulier. Que ceux qui ont dépassé l'âge de 12 ans se retirent. » Qui ne prennent pas en mauvaise part, mais ils sont trop grands déjà. « Ou trop petits, » intervint son alter ego. « Ou trop petits, c'est vrai. Nous avons pour mission de choisir 14 enfants, mais aussi 14 hommes faits, qui chanteront ténor, basse ou haute contre. Vous nous en trouverez bien aussi, n'est-ce pas, monsieur le primicier ?» Nos aînés se retirèrent donc, et le moins que l'on puisse dire est qu'ils ne semblaient guère maris de cette éviction. Messire Duhaut avait le teint sombre, mais il n'avait rien d'espagnol. Il était attaché, nous expliqua-t-il, à la cour d'Alexandre Farnèse. Il nous fit chanter seul, comme l'avait fait jadis le chanoine à qui mon père m'avait mené à Notre-Dame. Il y avait une différence toutefois, je savais maintenant ce qu'on attendait de moi, et j'avais appris à le faire. Je ne risquais plus d'entonner avec entrain les chansons grivoises que ma mère Marguerite avait entendues à la lessive. À ce souvenir, je souris. « Allons, à toi, me dit le musicien, tu ris, et tu as raison, je ne veux que votre bien. » Et il me demanda mon nom, laissant entendre qu'il m'avait déjà remarqué à l'office. Mon destin tout entier allait se jouer à cette minute. Qu'allais-je faire? Chanter du mieux que je pouvais, ou trébucher sur les notes, prendre la voix mal assurée qui m'assurait, à perpétuité, une petite vie tranquille à Namur? Je ne réfléchis guère. Était-ce amour-propre, était-ce inconscience ou bien défi? Je chantais comme jamais je ne l'avais fait. Après quelques vocalises, je me lançai dans un Stabat Mater de Zorita, mon musicien préféré. Je l'avais appris par cœur dans les musiques du curé Renson. J'étais fasciné par sa tragique beauté et je la traduisis de tout mon cœur, avec tout le pouvoir de ma voix d'enfant, pouvoir que je n'avais jamais senti comme à ce moment. Notre Phonascus, présent aussi derrière le primicier et ses grands personnages, me regardait avec émotion. Il était fier sans doute de son élève, il était conscient surtout du choix que je faisais. En chantant ainsi, je me coupais délibérément de ma vie présente, de mon pays, des miens. L'an prochain, il ajouterait sans doute le nom de Dufon à la liste de ceux dont il illustrait la grandeur de Saint-Aubin. Un silence presque religieux avait régné pendant toute ma prestation, et il s'écoula quelques secondes avant que l'envoyé de la cour ne le rompît. Je vois que la tradition de cette chapelle ne s'est pas perdue, quoi qu'on ait pu en dire. Jeune homme, venez avec nous, vous ne le regretterez pas. On écouta d'autres garçons, certains d'habitude meilleurs chanteurs que moi, mais qui ne se montrèrent guère convaincants. Quand vint son tour, j'échangeai un long regard avec Nicolas, mon ami. Je compris qu'il était décidé, et il mit aussi tout son cœur à chanter. « Ces deux-là sont inséparables, dit le primicier. Il vous faut prendre la paire ou n'en prendre aucun. Nous prendrons donc le lot. Nous nous en trouverons bien, je crois. Dites-moi, monsieur le maître de chant, qui sont les parents ?» intervint celui des deux gentilshommes qui étaient restés silencieux jusqu'ici, prenant à part le primicier. Ils causèrent un moment, désignant Nicolas, évoquant sans doute le sort subi par sa mère. Ces messieurs hochaient la tête gravement. Ils n'avaient plus guère de famille, et cela simplifierait les choses. « C'est vrai, ce qu'on m'a dit, que tu voulais partir ?» Je ne savais que répondre à mon père. Ce n'était pas si simple, hein. Sans doute avais-je mis tout mon cœur à cette audition, dont je connaissais parfaitement les conséquences, mais comment aussi pouvais-je me trahir, abjurer ce que je voulais être et ce que mes maîtres faisaient de moi? J'étais maintenant plutôt effrayé à l'idée de tout quitter pour aller au bout du monde, dans ce pays d'Espagne, dont nous ne connaissions que les hommes d'armes qu'ils nous envoyaient. Cette contradiction me crispait, et j'en avais les larmes aux yeux. « Mais voyons, intervint Marguerite, tout va bien, il pleure. Viens, mon gamin, reste avec nous, ne pars pas tout seul chez ces sauvages. » Ces effusions maternelles m'écœuraient un peu. D'ailleurs, je ne partais pas seul, puisque Nicolas serait du voyage. « Si, je veux y aller. » Les choses étaient nettes ainsi. C'était maintenant elle qui pleurait. Mes frères et sœurs s'y mirent aussi, dans un touchant unisson. « Voyons, ce n'est pas si terrible, intervint mon père. D'abord, il ne part pas demain, mais seulement au printemps prochain. Et puis, je n'ai signé que pour 6 ans. « Comment ?» Tu as signé, tu t'es déjà engagé, mais pourquoi lui demandes-tu ce qu'il veut faire alors? Il était gêné. Ce gentilhomme m'a embobiné avec ses belles paroles. C'est un avocat, tu sais, ces gens-là sont habiles. Il m'a fait signer le parchemin avant que j'aie compris tout ce qu'il me voulait. Dufon, tu n'es qu'un âne, cria ma mère, qui n'usait d'ailleurs du patronyme de son mari que dans des cas extrêmes. Combien t'ont-ils promis pour cela? 30 pièces d'argent, comme un Judas? 50 livres, qui seront comptées au jour de son départ. « Mais tout cela ne vaut que pour 6 ans. Tiens, regarde, c'est écrit. » Et il cherchait maladroitement cette clause sur son exemplaire du contrat frappé d'un sceau de cire rouge. « 6 ans, répéta-t-elle sans même regarder. 6 ans. On dit cela, mais on n'en a jamais vu un seul revenir. » Je me rendais compte en les écoutant que je n'étais plus vraiment des leurs. Oh, je les aimais bien, sans doute, mais plus que ceux dont je portais le nom et que j'avais déjà quitté une fois, ma vraie famille, c'était tous ceux dont je partageais la vie à la chapelle, Nicolas, les autres chanteurs, Fonascu lui-même. À vrai dire, ce lointain voyage me semblait maintenant moins difficile que ne l'avait été mon départ à l'autre bout de la ville 3 ans plus tôt. Jusqu'à ce qu'un sérieux motif d'inquiétude ne se fasse jour grâce à la charitable sollicitude de nos camarades. « Dupont et Dufon sont fous d'aller là-bas. On va leur couper le guillery. »« Imbécile, vous dites n'importe quoi. »« Mais non, en Espagne, on le coupe aux chanteurs, c'est bien connu. » C'est vrai, ça les fait chanter, mieux et plus longtemps. C'est comme les chardonnerets, on leur crève les yeux quand on les met en cage. Oui, mais sauf que c'est pas les yeux, c'est le guillery. Andouille, vous dites cela parce que vous êtes jaloux. C'est toi l'andouille. Bien sûr, il n'allait pas vous prévenir, mais vous êtes bien fait avoir. Mais oui, réfléchis un peu, tu as 11 ans. Bientôt, tu perdras ta voix. Tu ne penses quand même pas qu'ils vont t'emmener si loin pour le plaisir de t'entendre chanter pendant 2 ou 3 ans. Je vais beau nier avec conviction et me moquer de ses arguments, je n'en étais pas moins sérieusement inquiet. D'abord, j'avais déjà entendu ce genre d'histoire. J'avais surtout vu des partitions pour Superius, écrites pour l'Église et donc interdites aux femmes, mais qu'un enfant non plus ne pouvait espérer chanter tant les vocalises étaient longues et difficiles, tant il fallait aussi de puissance aux solistes pour s'imposer à l'orchestre dans des tessitures inouïes. À quel chanteur monstrueux était-elle donc destinée? Nous résolûmes de nous en ouvrir à celui en qui nous avions toute confiance, le curé de Saint-Jean, la Bérenson. Il nous avait toujours parlé comme à des grandes personnes, et comme il n'appartenait pas à Saint-Aubin, il ne serait pas tenté de nous cacher la vérité. « Est-ce vrai qu'en Espagne, on coupe le guillery aux petits chanteurs ?» interrogea Nicolas, n'y allant pas par 4 chemins. Le curé éclata de rire, puis réalisa soudain ce que la question pouvait avoir d'importance et d'actualité pour Nicolas et moi. C'est vrai et ce n'est pas vrai, répondit-il après quelques réflexions. Ce n'est pas, comme vous dites, le guillerie qu'on leur coûte, mais autre chose qui les empêche de devenir vraiment des hommes. Les couilles alors, intervient Nicolas, qui avait vu à la campagne qu'on traitait ainsi des taureaux, et avait donc la science du terme propre. Oui, c'est cela, mais rassurez-vous, ce n'est pas le sort de tous, et je n'ai jamais entendu dire qu'on échatterait les petits chanteurs venus des Pays-Bas. Mais pourquoi leur fait-on cela, demandai-je peu assuré. Quand tu deviendras un homme dans quelques années, tu perdras ta voix de supérius et tu devras chanter basse ou ténor. Si l'on pouvait te châtrer, ce qu'à Dieu ne plaise, tu garderais ta belle voix toute ta vie, mais avec la puissance et le souffle d'un corps d'adulte. Oui, mais on peut être haute contre et chanter aussi des parties aiguës, comme font à la chapelle François Panier et Charles Sanson. On n'aura pas coupé les couilles, que je sache. Tu m'as l'air bien renseigné, sourit le curé Renson. Mais ce n'est pas la même chose. François et Charles sont falsettistes. Ils chantent en voix de tête, comme chacun peut le faire. Tiens, écoute. Il nous offrit une petite vocalise qui monta jusqu'aux contrutes. Tout le monde peut chanter ainsi, mais avec bien moins de puissance que les castrats. Je suis curé, donc je ne suis pas castrat. Pourquoi on ne les coupe pas au curé? Jamais. Ou plutôt, c'est l'inverse. On ne peut pas être ordonné si on n'en est point pourvu. « Tiens, nous dirons que vous n'êtes chanoine, me dit Nicolas, toujours d'un naturel pratique. »« Il y a donc en Espagne qu'on fasse cela ? On le fait là-bas depuis toujours, mais la mode s'étend en Italie. Les Espagnols ont le privilège de fournir les sopranos à la chapelle du pape et leurs castrats ont eu beaucoup de succès à ce fameux concile qui s'est tenu à Trente dans le nord de l'Italie et qui a duré fort longtemps. » Nous étions déjà moins inquiets, résolus en tout cas à nous défendre et même au besoin à nous faire prêtre. » 6 mois, c'était le temps qui nous restait avant le grand départ. 6 mois d'hiver, avant le rendez-vous fixé au printemps, à Bruxelles, pour tous les chanteurs recrutés dans les chapelles des Pays-Bas espagnols. Notre vie ne s'en trouva pas modifiée. Levé avant le soleil, offices matinaux, lecture et écriture à l'école épiscopale, musique et chant avec le Phonascus. Mais si nous restions de petits chanteurs comme les autres, nous étions un peu, Nicolas et moi, comme ces malades ou ces condamnés dont la fin prochaine justifie des égards où le respect se mêlait à l'apitoiement. Le maître de chant nous prenait aussi souvent l'écart, s'efforçant de nous bourrer le crâne de tout son savoir, comme on charge sa musette avant un long voyage. La plus belle tradition des maîtrises est sans doute la fête des saints innocents. En ce temps de mon enfance, comme encore aujourd'hui, le 28 décembre est le jour où tous les petits chanteurs sont rois, où tout leur est permis, plus encore qu'à la Sainte-Cécile. C'est une sorte de carnaval avant l'heure, mais à leur usage exclusif. Le primicier le plus sévère n'a plus ce jour-là rien à dire, et il reste d'ailleurs prudemment cloîtré. La tradition rapporte ce qui a pu, dans le passé, en coûter à l'un ou l'autre de s'être opposé au petit roi du jour. Un maître de chant a ainsi été un beau jour arraché du lit en robe de chambre et traîné en l'état à la messe du matin, causant grand scandale à la cathédrale. On en rit longtemps, il ne put aller de par la ville sans que le bon peuple ne l'imaginât sans habit. À ce qu'on raconte, ses jambes décharnées et poilues lui avaient définitivement dénié toute ressemblance avec l'archange Gabriel, à l'apparition duquel certains chrétiens avaient pu croire un instant. Il se tient à la veille de cette fête une sorte de concile où les chanteurs choisissent pour évêque l'un d'entre eux. Cette éphémère dignité donne à l'élu un pouvoir souverain. Il porte la tiare et règle la fête à son gré, assuré d'une parfaite impunité. Le bon sens populaire porte heureusement les voix sur des postulants assez imaginatifs pour assurer le plaisir de la journée, mais suffisamment sages pour n'en point abuser. L'évêque des saints innocents de cette année 1584 eut nom Jean Dufond. Je devais sans doute, à l'épisode des souris musiciennes, d'accéder ainsi à la soutane violette à l'âge peu canonique de 10 ans et 3 mois. Un de nos aînés, Jean de Sarteau, avait les derniers temps poussé comme une mauvaise herbe et devançait maintenant d'une bonne tête ses plus proches poursuivants. Ses jours à la maîtrise étaient comptés, d'autant que sa voix donnait des signes très sérieux d'éraillement. Il invoquait un refroidissement pour excuser cet enrouement de plus en plus profond, tentait de l'éclaircir en toussant et ne réussissait qu'à grailler de plus belle. Bref, il lui arrivait ce qui nous arriverait à tous et toujours trop tôt, sa voix muait. Dans mon épiscopale autorité, je décidai donc de faire à cet organe défaillant des funérailles dignes des services qu'il avait rendus à la chapelle de longues années durant, dignes aussi de la réputation de la famille des Sarteau qui avait donné à Saint-Aubin des générations de musiciens. Nous improvisâmes donc un enterrement à l'insu de tous. Ce vendredi-là, car c'était un vendredi, je m'en souviens, et l'on faisait maigre malgré la solennité du jour, je réglais la cérémonie du haut de mon trône. L'un fut chargé de trouver une boîte de bois pouvant vaguement évoquer un cercueil, l'autre déroba sous l'autel de Sainte-Eulalie un drap brodé pour l'en couvrir. J'envoyais une équipe creuser une fosse au cimetière et un audacieux se laissa enfermer au clocher. Les autres, il n'en restait plus tant, s'attelèrent à répéter un requiem sous la direction de Nicolas, que j'avais évidemment désigné comme coadjuteur. Souci du détail, il avait bourré son habit de coussin pour figurer les rondeurs de Fonascu. À 10 heures, le cortège funèbre s'ébranla au grand complet. Nous parcourûmes ainsi en grande pompe la rue des Marcelles pour obliquer vers le marché aux légumes et rentrer par la rue Ravet et la rue Piconnette, tandis que le grand clocher de Saint-Aubin s'était mis à sonner pour la ville entière un glas inquiétant. Le convoi avait belle allure et je bénissais les badauds avec un air compassé, comme j'avais pu faire par messieurs l'évêque, le vrai. Nous hurlions notre requiem avec conviction, et les harmonies véritables rachetaient la crosse de bois peint et la mitre de papier épais. Si la musique y était, les paroles perdaient en authenticité. Je donnais le ton du massacre, transposant les saintes paroles en un sabir latinisant, où était question de n'importe quoi, et spécialement de la disgrâce vocale de notre malheureux condisciple. Le pillé Jésus fit place au pied de Fonascu, et il fallait ajouter des notes pour glisser à l'offertoire un libera testiculas desarti des pénis inferni. Devant ce curieux cortège, les paroissiens s'arrêtaient. Certains se découvraient en se signant, intrigués et prudents, d'autres comprenaient et s'esclaffaient. Mais on entendit aussi des cris scandalisés. Le mégère offusqué voulut s'en prendre à mes ornements sacerdotaux, et j'eus grand-peine à l'écarter par des bénédictions frénétiques, comme on exorcise un démon menaçant, regrettant de n'être pas pourvu d'eau bénite. Nous passions devant Saint-Jean, le curé Renson nous vit et éclata d'un rire sonore qui coupa court à des menaces. La femme s'en alla en maugréant. « C'est du joli, on n'a plus de respect pour rien, et même les curés s'en mêlent, soyez tous maudits !» Notre cérémonie s'acheva dans cette pagaille de tombes semée parmi les bosquets dégarnis alentour de la cathédrale. Nos fossoyeurs avaient creusé peu profond, à l'écart des pierres et des stèles. Ils étaient pourtant tombés sur des bouts d'ossements. Cela nous gêna un peu, et quand nous vîmes ces malheureux restes, nos chants se firent soudain plus sérieux. Ces morts inconnus eurent droit à un in paradisum véritable. Que le cœur des anges te reçoive, et qu'avec Lazare, jadis si pauvre, tu connaisses le repos éternel. Peut-être ces chrétiens d'un autre temps, enterrés comme des chiens sans pierre ni croix, n'attendaient-ils pour entrer au paradis que la prière d'un vrai cœur et la bénédiction d'un évêque, fût-il de pacotille. L'hiver passa bien vite, hiver qui fut cette année-là incroyablement doux et pluvieux. Si la froidure ne tua personne, la Meuse gonflée de ses eaux sortit une fois de plus de son lit et amena des malheurs que le gel n'avait pas causés. Cette désolation en annonçait d'autres. Il est bien connu que la terre doit être prise par le froid et reposée sous la neige pour donner tout son fruit à la belle saison. Après 2 ans de maigre récolte, la saison était donc de nouveau bien mal engagée. L'heure du grand départ sonna bientôt. « Vous irez à Bruxelles lundi après Pâques », nous avait annoncé le chanoine Grand Chantre. Il avait reçu ses instructions d'un courrier aux armes du gouverneur des Pays-Bas. Tous les chanteurs recrutés dans les maîtrises de nos régions devaient s'y retrouver à la chapelle du duc de Parme et partir ensemble pour l'Espagne. Bruxelles, cette convocation était un peu surprenante, car on croyait la ville aux mains des rebelles. « Détrompez-vous, la ville s'est rendue le 10 mars », avait annoncé le messager. « La capitale des Pays-Bas est de nouveau aux mains du roi et de l'Église. » « C'est une chance pour vous, mes enfants, » avait commandé le chanoine. « Vous verrez donc cette belle ville, au lieu de vous rassembler à Mons, comme vos prédécesseurs l'ont fait la dernière fois. » Le maître d'école était venu un jour à la classe de la collégiale avec un globe terrestre qu'il s'était procuré je ne sais où. Il saisit le prétexte de notre prochain départ pour donner à ses élèves une idée du vaste monde, et cette leçon de choses dont nous étions obligés en valait, ma foi, bien une autre. Ces potaches que leur mère envoyait là pour ne pas les avoir dans les pieds découvrirent, sans trop y croire, l'aspect réel du monde où ils vivaient. Et il est vrai qu'on a peine à imaginer la rotondité de la terre, alors qu'à l'évidence, les maisons et les fleuves y sont posés bien à plat. Moi-même, qui ai beaucoup voyagé, je dois bien avouer que je n'ai jamais vu nulle part à notre monde la forme que lui prêtent les géographes. Mais je prendrai bien garde de ne pas les contredire, chacun son métier, et eux-mêmes auraient sans doute, pour leur part, bien du mal à saisir la puissance d'un accord de Sixte et Carte. Le bon maître nous avait montré l'Espagne, excroissance perdue au bout de l'Europe, trop petite pour qu'on y inscrivît même son nom entier. Du bout de ses doigts, qu'il avait longs, pâles et poilus, comme le reste de sa personne, il désignait une obscure inscription, Hisp Pars. Voilà tout ce qu'on pouvait lire du grand royaume qui nous gouvernait, et il fallait toute la science de notre précepteur, aussi bien pour deviner à ces signes le but de notre prochain voyage, que pour nous persuader que nous pourrions tenir tous deux sur une si petite surface, Nicolas et moi, en plus de tout le monde qui devait y vivre déjà. Et comment irons-nous là, demandai-je, par terre ou par mer? On peut y aller par les routes, en traversant tout le royaume de France, répondit-il, mais c'est là un voyage d'au moins 300 lieues, et je ne sais si c'est ce qu'on a prévu pour vous. Le primicier lui-même ignorait quelle serait notre route. Le passage par la France me paraît fort hasardeux, avait-il cependant estimé. Nous sommes ces temps-ci en paix avec ce royaume, et notre roi est grand ami du duc de Guise, mais le pays est fort pourri de Huguenots, et on s'y égorge plutôt deux fois qu'une. J'avais pu passer en famille mes derniers jours au pays, et j'avais donc retrouvé, pour mieux la quitter, notre petite maison de la rue Notre-Dame, à charge pour moi de retourner chanter chaque jour les offices qui étaient ceux de la semaine sainte. La grand-messe de Pâques fut le point d'orgue de ma carrière à Saint-Aubin. L'évêque nous y recommanda spécialement aux prières des chrétiens du diocèse. Pour une fois infidèle à leur collégial Notre-Dame, mes parents furent fort émus lorsque Messire de Wallon-Capelle se tourna vers moi et qu'en son latin Galimatia, ils saisirent les mots de Johannes Dufond. De fait, le service de la poste avait rapidement repris vers le Brabant du Sud, et Alexandre Farnèse menait maintenant le siège devant Malines et Anvers. Ils étaient donc tous là le lendemain sur la grande place, au départ de la diligence de Bruxelles, les Dufonds, grands et petits, nos condisciples de la chapelle avec un bataillon de chanoines, les badauds attirés par l'attroupement. Je retrouvai avec joie Nicolas. Il était rentré quelque temps en son pays et en était revenu avec son père. Celui-ci était accompagné d'une nouvelle commère, personne dont les larges rotondités laissaient entrevoir que la race des Dupont n'était pas près de s'éteindre. La haute stature de Fonascu, plus pâle que jamais, dominait d'une tête tout ce petit monde. Il vint nous embrasser, ému jusqu'aux larmes, et nous ne pouvions décemment détourner la tête à la laine méphitique qu'il nous soufflait une dernière fois sous le nez. « Vous avez bien de la chance, mes petits, de pouvoir partir là-bas. N'oubliez pas votre vieux maître. » Et nous serrant les épaules, il fredonna les premières notes de l'hymne à Saint-Jean. « Ut quant laxis, resonare fibris !» Nous poursuivîmes de même, comme un signe de reconnaissance. Avec un clin d'œil, il nous glissa à chacun une pistole et s'éloigna. Nul envoyé du chapitre ne devait nous accompagner jusqu'à Bruxelles, mais nous étions laissés à la garde de deux chantres, hommes faits, recrutés comme nous par les envoyés du roi, Jean Annon, basse-contre à Saint-Aubin, et un inconnu du curieux nom d'Anglebert Turlure. Il venait, nous dit-il, de la collégiale de Ciney, petite ville située à 6 lieues de Namur, mais déjà en terre liégeoise. On chargea la voiture, ce qui ne fut pas une mince affaire, car nous étions assez généreusement pourvus de vivres pour soutenir un siège de 6 semaines. Pour laisser de la place aux autres voyageurs, on nous installa, Nicolas et moi, sur le strapontin près du cocher. Nous égrimpâmes lestement après les dernières embrassades. L'attelage s'ébranla, prenant au pas vers le marché de l'Ange pour franchir les deux enceintes de la ville par la porte Seignot et la porte de Bruxelles. Jusqu'à ce qu'ils disparaissent au coin de la rue, j'échangeai de grands signes avec mes parents, Jacques et Marguerite, plantés sur la place, dérisoires et malheureux. Jamais je ne devais les revoir.